Chapitre 5 Marocain le Terrible. Nous avons fait connaissance avec M. Marocain, le commanditaire d'entreprises industrielles et artistiques, l'homme nerveux. Marocain le Terrible, que seule une offre de réparation par les armes calme immédiatement, ainsi qu'on l'a vu dans son altercation avec Bengali, à qui depuis ce jour il avait gardé une dent. Quant à sa femme, Madame Marocain, nous savons qu'elle est la marraine de Georgette, mais nous ne la connaissons pas encore. Pénétrons dans l'appartement de ce couple, si différent du précepte de la chanson, il faut des époux assortis dans les lias du mariage. Rien, en effet, de moins bien assorti que ces deux êtres destinés à vivre toujours ensemble, car l'incompatibilité d'humeur n'est pas un cas suffisant de divorce. Madame Marocain, douce et résignée, ne le demanderait d'ailleurs jamais, et quant au mari, outre qu'il est très amoureux de sa femme, il peut, avec elle, donner libre cours à son humeur grincheuse et à ses emportements, supporter sans protestation et sans plainte. Sauf toutefois à propos des scènes de jalousie, l'honnête femme se réveillant au moindre soupçon sur son inattaquable vertu. Mais son ferme langage en pareille occasion ne pouvant que rassurer Marocain, il le tolérait tout en feignant de n'être pas convaincu. L'irritabilité naturelle de celui que l'on qualifiait en général de vilain monsieur s'était aggravée de sa situation récente de commanditaire. Séduit par l'exemple d'un de ses amis dont les commandites heureuses avaient décuplé la fortune, il avait vendu ses titres de rente et autres valeurs mobilières qui ne lui rapportaient que de 3 à 4%, convaincu que, comme son ami, il grossirait beaucoup son avoir en plaçant ses fonds dans des entreprises. Malheureusement, tout n'avait pas réussi, et il avait bu des bouillons moins réconfortants que ceux des établissements Duval. De là, son état nerveux, dont nous avons vu un échantillon le jour de l'averse. Au moment où nous pénétrons sous le toit conjugal, Marocain est plus nerveux que jamais. Il a commandité de 50 000 francs le directeur d'un nouveau théâtre, le théâtre Rigolo, qui ouvre ses portes dans quelques jours avec une pièce ayant pour titre « Le veuf à l'huile ». Et préoccupé des redestinés de l'entreprise, il passe tour à tour des plus grandes espérances aux plus sombres appréhensions. « Le directeur, ce polisson, dit-il, qui me laisse assister aux répétitions, parce que c'est mon droit écrit dans le traité, et qui ne me permet pas de dire mon avis sur la pièce. Oh, j'ai des mots très drôles à mettre dans la pièce. Il les refuse. Il m'empêche de donner des conseils aux acteurs. Je soumets mes idées sur les costumes, et il m'impose silence. Oh, et ouvrir un théâtre par une chaleur pareille, ajouta-t-il. Ben, je voulais pas, il m'a envoyé coucher, il s'en fiche, c'est mon argent. Et dire que jusqu'à présent, il a plu. Ça n'arrive qu'à moi, ces choses-là. La pluie a fini après le grand orage qui m'a fait faire la connaissance de ce monsieur Bengali, lequel, par la même occasion, a fait celle de ta filleule. Et Marocain revint sur sa rencontre de la veille, avec force commentaires malveillants, rappela la fuite de la jeune fille en l'apercevant et persista dans sa conviction qu'il y avait là une intrigue d'amour. « Oh, mais je réponds de la vertu de Georgette comme de la mienne, » dit Madame Marocain. « Ce jeune homme a pu la rencontrer, lui adresser quelques paroles, sans que pour cela... « Ta-ta-ta-ta-ta, » répondit notre bourru. Ben, « J'ai écrit à Georgette de venir me parler, » ajouta Madame Marocain. « Une explication est nécessaire. » Georgette entra à ce moment et, voyant Marocain bondir à sa vue, « Mais qu'y a-t-il donc ? » demanda-t-elle. « Ce qu'il y a, » fit l'aimable homme avec un sourire, ou plutôt avec une grimace ironique, « ce qu'il y a. Regardez-moi cet air d'innocence, cette figure de sainte Nitouche. Et comme Georgette le regardait avec stupéfaction, il continua. J'étais en train de parler à Madame Tamaraine de ma rencontre d'hier au soir. Puis, s'adressant à sa femme, « Vous voyez, oui, elle feint d'ignorer de qui je parle. » Et s'avançant sur Georgette, « Ce jeune homme avec qui vous faisiez route, ce monsieur Bengali, ce n'est pas vrai, hein, je me suis trompé. » « Mais pas du tout, répondit-elle, c'est très vrai. »« Elle l'avoue cyniquement, s'écria Maroquin. Quand je ne dis rien, je suis une sainte Nitouche. Quand j'avoue, je suis cynique. Je ne sais pas comment faire, répondit Georgette. Je vais vous expliquer. »«
Quelle explication ? » hurla notre homme. « Ai-je vu ou l'ai-je pas vu ?»
« Mais mon ami, laisse-la s'expliquer, » dit doucement Madame Maroquin.
« Oh, elle trouvera une explication. Les femmes vous expliqueront tout ce que vous voudrez. Alors allez, va, explique. »«
Mais c'est bien simple, » dit la jeune fille. « Depuis le jour de ce grand orage où ce monsieur, que je n'avais jamais vu, a voulu absolument m'abriter sous son parapluie... »«
Oui, jusque chez toi, » interrompit Maroquin.
Ah, non, non, jusqu'à la porte de ma maison, oui, jusque chez moi, non, non. » Et Georgette raconta dans ses moindres détails l'aventure que l'on connaît. « Depuis ce jour, ajouta-t-elle, ce monsieur vient me guetter, me poursuit de ses galanteries. »«
Mais il fallait le signaler aux agents, il t'aurait débarrassé de lui. » »«
Non, c'eût été un scandale, j'ai pas osé. » Oh, je l'emmène menacer chaque fois. Alors, il me répondait un tas de folies qui me faisaient rire. Et allait dire aux agents, « Arrêtez ce monsieur, il m'a rien dit de malhonnête ni d'inconvenant, mais il me fait rire. On n'arrête pas les gens parce qu'ils font rire. »
C'est un polisson, un de ces farceurs, qui devait être chassé à coups de pied dans le derrière.
Je ne pouvais pourtant pas, moi, demoiselle, dit en riant Georgette.
Elle rit, elle ose rire, vociféra notre porc épic.
Mais c'était à vous de le faire rire au soir, ajouta Georgette, puisque vous étiez là. L'invitation à donner son pied au derrière à Bengali calma l'homme terrible. D'ailleurs, ajouta la jeune fille, ce qu'il me disait au moment de votre arrivée ne méritait pas pareil traitement. Georgette, alors, répéta le langage que lui avait tenu son amoureux et le conseil qu'elle lui avait donné d'exprimer ses intentions à Madame Maroquin, sa marraine. « Tu as bien fait, ma chère enfant, » dit celle-ci.
« Oh, le truc du bon motif, oh, » s'écria Maroquin, « je le connais, celui-là. »
« Même mon ami, » répliqua sa femme, « ne condamne pas ce jeune homme avant d'être sûr. »«
Bon, bon, je veux bien, mais qu'il vienne nous adresser sa demande. Nous l'attendons de pied ferme et nous l'attendrons longtemps. » »«
Je ne crois pas, » répliqua Georgette, « ce jeune homme avait l'air sincère. Il était très ému. »«
Ému, parbleu, moi aussi il était ému, dans le temps. » Est-ce que je rigolais quand j'avais fait gommer mon histoire à une petite dinde? Tu as gommé son émotion, toi, tu te toquais de lui.
Georgette balbutia une protestation timide contre le mot toquer, suivie de quelques mots d'appréciation des sentiments de cœur du jeune homme, sous ses dehors d'insouciante gaieté, et ce, aux rires ironiques de l'incrédule. Qu'il était convaincu, lui, Maroquin, que le sensé prétendant à la main de Georgette se bornerait à continuer ses obsessions. « Alors, répondit Madame Maroquin, il se lassera des rigueurs de Georgette, et il ira chercher fortune ailleurs.
Mais s'il voulait réellement épouser Georgette, il serait déjà venu nous déclarer ses intentions.
Mais, dit la jeune fille, il n'y a pas de temps de perdu. C'est hier au soir qu'il me les a fait connaître. Il n'est pas 2 heures. Marocain exprimait sa volonté de faire changer de domicile à Georgette pour dérouter le séducteur, lorsqu'une lettre apportée par la bonne vint le mettre en belle humeur. Cette lettre était du directeur du théâtre Rigolo et lui annonçait que la répétition générale du Veuf à l'huile devant plusieurs journalistes avait eu lieu et que cette pièce avait provoqué un fou rire et que de l'aveu des critiques, le théâtre ouvrirait par un grand succès. « Tu vois bien, mon ami, dit Madame Marocain, je te le disais. Tu as assisté à toutes les répétitions et tu es blasé sur la pièce, donc hors d'état de la juger. » Le commanditaire, rassuré, presque aimable, convainc que la forte somme engagée par lui dans la nouvelle entreprise théâtrale le rendait nerveux, incapable de voir aussi juste que les personnes désintéressées. Il la voit même et plus compétente que moi. Et puis nous serons là pour applaudir, dit Georgette, quand vous m'emmènerez, n'est-ce pas ? Comment, si je t'emmènerai, mais tu seras avec nous dans la plus belle loge de face. Et puis je dois avoir 40 places pour des amis qui claqueront ferme. Alors, alors, ça ira bien. Qu'est-ce que je disais donc quand cette lettre est arrivée ? Vous me disiez de donner congé de mon logement. Ah oui, hein ? Oh, pas tout de suite, bon, attendons. Si ce jeune homme vient, comme je l'espère, cette précaution sera inutile. Et s'il te convient pour mari, oh, si malgré ses excentricités de jeunesse, c'est un honnête garçon, si sa position... Enfin, nous verrons. Madame Marocain, le voyant arriver à l'état d'esprit désirable pour le faire adhérer à un projet conçu par elle et sa filleule, dit en embrassant celle-ci: pauvre mignonne, qui arrivait si contente, si heureuse, et monsieur mon mari, si bon au fond, lui cause une épouvante. Oh, oh oui, une épouvante, répondit notre buteur sur le ton de la plaisanterie. En voilà une facile à épouvanter. Et il se mit à rire aux éclats. Madame Marocain saisit ce nouveau prétexte à flatterie. « Mais tu épouvantes les hommes, à plus forte raison une pauvre fillette. » Les Marocains le redoublaient de rire. « Ah, la bonne heure !»« Eh bien, la bonne heure, dit alors sa femme. « Oh, si tu étais toujours comme cela. »« Ah, j'ai mes moments, j'en ai d'autres, comme tout le monde. »« Oui, mais ces autres-là... » C'est tout à coup chez toi une fusée, une soupe au lait. » « Moi, dit Georgette, qui venait vous annoncer qu'on serait bien heureux de vous avoir, vous et ma marraine, à une noce. »« Une noce ?» demanda d'un air aimable le petit tyran. « Oui, une très jolie noce, et on m'avait chargé de m'assurer avec précaution si on pourrait venir vous inviter avec la certitude de réussir à vous faire accepter l'invitation. » « Bon, si ce sont des gens que je connais. » »« Mais vous les connaissez beaucoup, ce monsieur et madame Blanquette. »« Les Blanquettes, ils marient leur fille ?»« Dans 8 jours. »« Et elle voudrait bien m'avoir pour demoiselle d'honneur. »« Je n'ai pas voulu promettre sans vous consulter, parce que si ça vous avait contrarié, le moins du monde. » »« Et voilà comment tondont-elles la bête féroce. » Tout marcha donc au gré des deux dompteuses. Marocain alla même au-devant du désir de la marraine, en l'engageant à offrir à sa filleule une jolie toilette blanche de circonstance. Toutes deux sautèrent au cou de Marocain, que la pensée d'un bon dîner et les flatteries à son adresse avaient rendu tout à fait charmant, et il déclara nettement que les Blanquettes pouvaient en toute assurance lui faire leur invitation. Chapitre 6. Ouverture du théâtre Rigolo. L'annonce sur les colonnes Maurice et dans les journaux de l'ouverture du théâtre au nom joyeux et de la pièce au titre alléchant qui devait l'inaugurer, ne pouvait laisser indifférent Bengali et ses compagnons de plaisir. Et malgré une chaleur à vendre le beurre en bouteille, ils s'étaient mis d'accord pour aller tous ensemble à la première représentation du veuf à l'huile, et ils avaient loué 6 fauteuils de balcon, premier rang, se suivant sans interruption. Le nouveau théâtre était un ancien café-concert transformé en salle de spectacle par adjonction de 2 galeries, d'un balcon et de quelques loges, théâtre de quartier vu sa situation excentrique. Ce quartier, du reste, ne pouvait fournir un public de high life, et on s'en apercevait dès en entrant dans la salle aux nombreuses casquettes et aux cravates rouges ou vert pomme qui l'émaillaient, mêlées au chapeau du temple des dames, même au simple bonnet et par-dessus tout au bruit des conversations, des interpellations et des appels à longue distance entre spectateurs reconnaissant des amis. Tout cela dans une température d'Éthiopie et un grouillement de visage en sueur, continuellement essuyé par des mouchoirs de poche ou des manches de paletot. Dans la confusion des voix, on distinguait les réflexions de circonstances, échangées du paradis au parterre et réciproquement. « Toi, est chic, ce théâtre-là ? Ouais, il y a du velours et de l'or. Et le veuf à l'huile, oh, ça doit être bien rigole-boche. Qu'est-ce que cela peut être qu'un veuf à l'huile ? Un veuf à l'huile, ça doit être un vieux veuf bien conservé. Dans l'huile, oh, bien les sardines. » Et tout le monde de rire. Les sardines, espèce de serin. Eh ben, qu'est-ce que c'est, toi? Allez, va donc t'asseoir sur ma veste et prends garde de casser ma pipe. Ben, dis donc, ce que c'est, toi, puisque t'es si malin. Autre voix.
Moi, je parie que je sais ce que c'est que le veuf à l'huile.
Tout le monde. Ah ah, dis-le.
Eh ben, c'est le contraire d'un cornichon, parce que le cornichon est au vinaigre.
On conspue l'auteur de cette explication. Ferme donc ta boîte à bêtises, crie l'un.
Tiens, tu m'affliges comme le grenadier de la chanson, dit un autre.
Troisième voix. Vous êtes tous des melons, voilà ce que c'est. C'est pas le veuf en personne. Simplement qu'il a fait faire son portrait à l'huile. Cette nouvelle explication est accueillie par des huées unanimes. Tu ferais bien de nous payer des rafraîchissements que de dire des choses bêtes comme tes pieds, crie un ami du préopinant.
Oui, oui, approuve en cœur toute la société altérée. On crève de soif, disent les uns. Il n'y a donc pas de limonadier, demande un autre.
Ici, le cœur sur le rythme des lampions. « Le garçon ! Le garçon !» Le silence se fit tout à coup. C'était l'arrivée de Bengali et de ses amis au balcon qui produisait son effet.
« Bouh, les messieurs de la haute » murmurait-on.
« Ils ont des gants !» observaient les uns.
« Et des lorgnettes !» ajoutaient les autres.
« Bon, ça doit être des Russes. »« Oui, ce sont des Russes, » affirma un physionomiste.
Et l'opinion ayant circulé, de nombreuses voix crièrent
« Vive la Russie !»
Bengali et sa société saluèrent gracieusement en mettant la main sur leur cœur, ce qui prouva que le physionomiste avait deviné. Et les cris « Vive la Russie !» de redoubler. Demandez 20 bières, cognac, sucre d'orge à l'absinthe, cria un garçon limonadier qui entrait en ce moment. Des bravos retentirent de toutes parts, accompagnés des désordres.
Garçon, 4 verres, garçon, 2 cognacs, garçon, 5 bocs. Des bons chaussons, ajouta le garçon.
3 chaussons, crièrent des voix.
Pas de confusion sur le mot chaussons. Un grammairien fantaisiste l'a défini « objet de lisière ou de pâte ferme contenant des pieds ou des pommes ». Les chaussons dont il s'agit ici contenaient des pommes.
Les plus pressés, soulagés par l'absorption des liquides, et un silence relatif s'étant produit, Bengali se leva et cria d'une voix retentissante « Garçon, 6 sucres d'orge à l'absinthe !» Et quand on vit les 6 sucres d'orge sucés par les 6 bouches amies, ce fut un enthousiasme tenant du délire, et toute la salle de crier « Libre russe, libre russe !» Mais les musiciens n'y sont pas, cria un spectateur. Chantons plutôt la Marseillaise. Et tout le monde entonna la Marseillaise aux acclamations de Bengali et de ses compagnons, debout et la main sur le cœur. Un œil parut à chacun des trous du rideau, dont l'agitation trahissait la présence des comédiens impatients de voir les Russes, et tous ne pouvant pas mettre leur œil au trou, les empêchés soulevaient les coins du rideau et montraient leurs têtes curieuses. Marocain, placé dans une baignoire de face, sous le balcon où étaient les spectateurs, cause de cet enthousiasme, et qu'il ne pouvait pas voir, Marocain de se réjouir de l'heureux incident qui devait assurer le succès du veuf à l'huile. Et quand les 4 musiciens, composant l'orchestre, parurent à leur place, il s'associa de tous ses poumons au cri de nouveau poussé « Libre russe, libre russe !» Les artistes, qui ne connaissaient pas ce chant national, jouèrent « God Save the Queen » aux applaudissements des spectateurs qui avaient pris cet air anglais pour l'air russe. Ceux du parterre, tournés vers les prétendus russes, les acclamaient, battaient des mains, faisaient un tapage assourdissant. Les petits coups précipités, frappés derrière le rideau pour avertir les musiciens de se tenir prêts aux 3 coups officiels, ce signal n'arrêta pas les exclamations des amis de la Russie. « Silence ! » dans la fosse commune, cria un amateur de chaussons, en essuyant à ses cheveux ses doigts pleins de marmelade de pommes. « On va commencer !» On frappa les 3 coups, l'orchestre joua l'ouverture et le rideau se leva. Marocain était haletant et avoua à sa femme et à Georgette qu'il avait le trac. Puis, remarquant une place vide à l'orchestre, « Oh, je vais la prendre, dit-il, je serai mieux pour chauffer la pièce et encourager les artistes. » Il quitta la loge et alla s'asseoir à la salle vacante. « Mais cette place est celle d'un monsieur qui va rentrer, il m'a prié de la lui garder, » dit le voisin de salle. « Bon, on ne retient pas de place, » répondit-il, « celle-ci est-il occupée, je la prends. » « Vous vous arrangerez avec son propriétaire, » répliqua le gardien de la place. « C'est tout arrangé, » fit le commanditaire, et il s'installa dans la salle au moment où le rideau se levait. « Oh, une idée !» dit à demi-voix Bengali à ses amis. « Nous ferons les mots continuer. » Les amis approuvèrent en étouffant le rire qui les gagnait à la pensée de cette scie pendant la pièce. Le théâtre représentait un petit salon modestement meublé. Il fait nuit. Entra avec précaution, par une porte latérale, une vieille femme portant une lampe allumée. « Je crois, dit-elle, que mon savoyard de maître s'est décidé à taper de l'œil. » « Foi de veuve tubéreux, qui est mon nom, j'en ai attrapé une courbature dans la gorge de lui lire les journaux. » On entend sonner 2 heures. « 2 heures du matin, vous croyez qu'il n'est pas tué, se ravager là, pas vouloir que les autres dorment parce qu'il ne peut plus dormir, ni que les autres mangent parce qu'il n'a pas d'appétit et qu'il est condamné à l'huile de foie de morue. »
Désappointement des spectateurs. Rumeur dans la salle.
Ah, mais c'est pour ça que ça s'appelle le veuf à l'huile.
Oh, est idiot. Oh, c'est imbécile. On se fiche de nous. Laissez continuer, s'écria Maroquin. Puis s'adressant à l'actrice, « Continuez, madame, » dit-il. Et la mère tubéreuse continua.
« Est-ce à 42 ans, voilà où mène la noce, et encore, il y a noce et noce. 6 mois, par exemple. »
Ici, un rire général. Maroquin, voulant chauffer le premier succès, se tord avec des éclats joyeux à croire qu'il allait suffoquer.
« Attention au mot continué, » dit Magali à ses compagnons, « je commencerai. »
La mère tubéreux, qui a cru devoir saluer le public, reprend la suite de son monologue.
« Eh bien, moi, ça m'empêche pas d'être bien conservé, j'espère. »«
De bottes !» dit Magali à haute voix. Et nos farceurs continuant... Le public stupéfait entendit
« De bottes à Nicolas, flamel au drame, de dénerie de veau au petit poisson comme le bras. »
Magali fit signe d'arrêter ici la série. Le public se dit
« Pouh, c'est du russe, il parle en russe. »
Et la pièce continua. La mère tubéreux.
Avec ça qui prend des pilules très échauffantes qui lui donnent une constipation.
Rumeur et protestation dans la salle.
Oh, oh, oh.
Mais charge-le d'huile, crie une voix. Mets-le à l'huile de ricin, ajoute une autre, et toute la salle de rire.
Silence, hurle le Maroquin furieux.
La chaleur allant toujours croissant, les dames peu à peu retirent les unes leurs chapeaux, les autres leurs bonnets, et les suspendent à l'étoffe de la rampe à l'aide d'épingles. La mère tubéreux continuait lorsqu'une altercation se produisit dans la salle. C'était le titulaire de la place occupée par Maroquin qui la lui réclamait.
Quoi ? Dit celui-ci avec humeur. Mais vous troublez le spectacle !
Ben, « c'est vous qui le troublez, je vous réclame ma place, voilà tout. »
Maroquin ne répondit pas et se remit à écouter la pièce. Le réclamant lui frappa sur l'épaule. « Vous n'entendez donc pas ce que je vous dis? Vous avez ma place, je la veux. » Maroquin refuse de la rendre. Altercation, gifle retentissant appliqué à Maroquin...
« Ah ben la claque !» cria Loustic et le public de rire.
Tout le monde est levé, la mère tubéreux attend que l'émotion soit calmée. Un agent arrive et expulse le gifleur. Maroquin alors de rouler les yeux effrayants et de crier d'une voix terrible.
« Eh bien, ça m'est égal, je la garde !» et il se rassit à la place réclamée.
« C'est ça, gardez-la !» cria le public mis en belle humeur. Pendant cette scène, nos 6 farceurs avaient remarqué l'exposition à la galerie des chapeaux et des bonnets, et après avoir chuchoté entre eux, Bengali était sorti, puis était rentré après une courte absence. La mère tubéreux avait repris son monologue. Le public écoutait la pièce et la bande joyeuse profita de l'attention générale pour exécuter le plan conçu par Bengali et qui était celui-ci. Les dames, s'étant allégées de leur coiffure pour avoir moins chaud à la tête, nos farceurs s'allégèrent de leurs chaussures pour avoir moins chaud aux pieds. Et bientôt, on vit pendre au balcon 6 paires de bottes accrochées à la rampe du balcon par les tyrans à l'aide des épingles que Bengali s'était procurées pendant sa sortie. « Seconde série des mots continués, » dit-il à voix basse. « Attention !» La mère tubéreux continuait toujours. Si ça n'était pas qu'il est riche et qu'il me couchera sur son testament. »
Magali continua sûrement. « Comme un arracheur de dents. » Et les autres de continuer sur la syllabe « dents ».«
Sœur de corde, corde à puits, puits très profond, fond de culotte. »
« Ah, c'est assez !» cria Maroquin avec colère. Et tout le monde se retournant vers les interrupteurs, de jeter un cri de surprise à l'aspect de l'étalage de cordonnerie. Maroquin bondit à la vue de Bengali.
« C'est des Russes !» dit un des spectateurs. « Il paraît que ça se fait dans leur pays quand on a trop chaud. »«
Ça, des Russes !» hurla Maroquin.
« Mais je les connais !» Ce sont des faiseurs de farces, ils sont venus ici pour se fiche de nous. »
Des clameurs alors accueillirent cette révélation. Des menaces aux faux russes se firent entendre, des poings se tendirent vers la galerie. Magali et les siens, devinant qu'un mauvais parti leur était réservé, décrochèrent vivement leurs bottes et disparurent. Chapitre 7. Georgette soustraite à Bengali. Il est à peu près inutile de dire que les bonnes dispositions de Maroquin à accueillir le candidat à la main de Georgette, s'il venait à exposer sa demande, ne résistèrent pas à la chute de veuf à l'huile qu'il attribuait à Bengali. Le lendemain même de cette soirée désastreuse, le changement de domicile de la jeune fille était un fait accompli. On paya le terme près des choirs, le congé n'ayant pas été donné à temps. Pour le terme suivant, on en consigna le prix en garantie de la non-location possible. Le modeste mobilier de la jeune locataire fut enlevé en quelques heures par un commissaire sur une charrette à bras, et le lendemain et jour suivant, l'obstiné amoureux guetta vainement la sortie et la rentrée de celle qui en était arrivé et occupé toutes ses pensées. Car Madame Maroquin s'était trompée. Les rigueurs de sa filleule, loin de décourager Bengali, avaient eu un résultat contraire. Habituée aux conquêtes faciles des dames qui acceptent sans façon le bras et le parapluie d'un inconnu, la résistance ferme et persistante de la jeune fille à ses tentatives pour pénétrer chez elle, ses refus réitérés d'accepter les rendez-vous qu'il lui demandait pour éloigner d'elle la crainte des réflexions de son concierge et de ses voisins, les menaces de Georgette de demander protection aux gardiens de la paix et de la morale publique, sa volonté enfin, qu'il croyait irrévocable, de ne pas céder à ses désirs, tout cela n'avait fait qu'accroître la passion de notre donjouan du parapluie pour la première fois en face d'une vertu solide. Étonné de ne plus rencontrer Georgette, « Elle est peut-être malade, se dit-il. » Et pour en avoir le cœur net, il se décida à se renseigner auprès du concierge sans laisser prise aux suppositions malveillantes du préposé au cordon. « Je suis, lui dit-il, fabricant d'éventails, je donne des travaux à une demoiselle qui demeure ici, mademoiselle Georgette, alors je lui ai confié. » Alors, le concierge l'interrompit. « Ah, elle ne demeure plus ici, répondit-il. »«
Ah, elle n'y... » fit Bengali désappointé.
« Oh oui, elle est déménagée depuis 4 jours. »«
Oh, alors donnez-moi sa nouvelle adresse. »
Ben, je ne l'ai pas, cette demoiselle est partie sans la laisser. »
Et sitôt dans la rue, notre amoureux, dont les menus soucis de la vie n'avaient jamais altéré la gaieté, resta tout rêveur. Puis, secouant enfin la tristesse qu'il sentait l'envahir,
« Bon, c'est trop bête, dit-il, une de perdue, 10 de retrouvée. »
« Tiens, monsieur Bengali, dit une voix. »
Le séducteur déçu regarda qui l'interpellait. C'était Pistache.
Oh, c'est mon bon ami le pharmacien, s'écria Bengali. Puis, comme frappé d'un souvenir, « Oh, sapristi, dit-il, vous me rappelez cette soirée chez votre peintre. Est-ce que Madame Jujubès tourne toujours son boulin à café ?» Pistache se mit à rire. « Farceur, c'est égal, elle était mauvaise, celle-là. Comment j'ai annoncé que ce tour-là était une surprise on m'attendait, je suis pas revenu, tout le monde a été surpris. Si j'étais revenu, il n'y aurait pas eu de surprise, ça aurait pas été drôle. » Épistage de rire de plus belle. « Tout le monde était furieux, n'est-ce pas ?» demanda notre mystificateur. « Oui, d'abord oui, et quand votre tante est venue annoncer qu'elle venait de vous voir avec... »« Ma tante Pied de Vache est venue. » « Oui, un instant après votre départ, elle a expliqué que vous aimiez à faire un tas de blagues comme ça, mais que vous étiez un honnête garçon, qu'elle aimait beaucoup et à qui elle donnerait une belle dot en mariage, sans compter que vous serez son seul héritier. » Alors, la famille Jujubès, qui n'était pas contente par rapport aux dames à qui vous avez fait tenir des bougies, et à ce souvenir, Pistache pouffa de rire. « Ah oui, pendant que vous jouiez du corps de chasse. »« Oui, pendant que... Ha ha, ça t'a des forceurs. »« Mais j'en pouvais plus à force de souffler. Ah, »« Alors, monsieur et madame Jubel se sont mis à rire en disant que c'était une simple plaisanterie de jeune homme. »« Et on a beaucoup engagé, madame votre tante, à vous amener. »« Elle vous l'a pas dit ?» Je ne l'ai pas vu depuis ce jour-là. Et c'est vous qui m'apprenez. Je ne savais même pas qu'elle connaissait la famille de votre adoré. Au fait, et vos amours? Oh, ils vont très bien, très bien. Tant mieux, vous m'inviterez à la noce. Comment? Oui, garçon d'honneur, si vous voulez. Si je veux, oh, je vous crois que je veux. À quand le mariage? Oh, le mariage, je ne sais pas encore. « Ah, le jour n'est pas fixé ?»« Non, parce que je vais vous dire, la demande n'est pas encore faite. »« Sauf cela, rien ne manque. »« Oui, voilà tout. »« C'est peu de chose. La jeune fille vous aime. »« Je le pense. »« Ah, elle ne vous l'a pas dit ?»« Je ne le lui ai pas demandé. »« Pourquoi, vous ne trouvez pas la phrase ?» « Si, oh, si, oh, la phrase, je la trouve bien. »« Oui, c'est ce qu'il faut mettre dedans que vous ne trouvez pas. »« Enfin, oh, ce détail près, tout cela me paraît être en très bon chemin. »«
N'est-ce pas ? D'autant plus que la mère, Madame Jujubès, à qui j'ai dit mes intentions, est tout à fait pour moi. »«
Alors, ça y est ?»
Oui, ça ne dépend plus que du père.
C'est quelque chose, oui, mais enfin, votre situation est excellente. Allez, allons faire une partie de billard. Je vous en rends 20 de 50.
Je ne peux pas. Je vais en ce moment poser pour mon portrait.
Alors, oh, il ne faut pas que ce soit l'artiste qui pose.
« Oh, il n'y a pas de danger. Je l'attends toujours une heure et souvent il ne vient pas du tout. »«
Diable, mais vous aurez des cheveux blancs quand votre portrait sera fini. »«
Bon, que Monsieur Jujubès soit en retard ou qu'il ne me vienne pas du tout, ça m'est égal. Et même j'aime mieux ça pour être avec Athalie. »«
C'est assez malin de votre part et je comprends maintenant pourquoi vos affaires sont si avancées. »
« Certainement, oui, mais il n'y a plus que le père. »«
Qu'il donne son consentement et crac, allons-y. »«
Voilà, oui. Dites donc. »«
Quoi, cher ami ?
Vous ne le savez pas, ce que vous devriez faire ?»«
Oh, je le sais, si rarement. »«
Eh bien, vous devriez venir avec moi, voir mon portrait. »« Vous me direz si c'est frappant. » « Je le crois.
Et puis, on sera enchanté de vous voir, cher monsieur Jujubes.
Vous croyez? Bon, j'en suis sûr.
Après tout, c'est possible, dit Magali. Ils connaissent ma tante. C'est une bonne cliente, car tous les portraits d'elle dont j'ignorais l'auteur. Allons, venez, ajouta Pistache, en passant son bras sous celui de son ami. Et tous les deux arrivèrent chez l'artiste, qui, bar extraordinaire, était en avance et préparait sa palette. Il alla à Bengali, le sourire aux lèvres et la main tendue. « Ah, vous voilà donc, faiseur de surprises !»«
Voyez-vous, dit Pistache, je vous l'avais bien dit, qu'on n'était pas fâché contre vous. »«
Fâché, nous ?» s'écria Jujube. « Est-ce que les artistes se fâchent pour une plaisanterie spirituelle ?»«
C'est bon pour les bourgeois de se fâcher en pareil cas. » Et Jujube serra de nouveau la main de Bengali, stupéfait par cet accès de politesse foudroyante. « Je vais prévenir ma femme et ma fille de votre bonne visite, » dit l'artiste. Et il disparut un moment.
« Vous direz du bien de moi, n'est-ce pas ?» supplia Pistache dès qu'il fut seul avec son ami.
« Comptez sur moi, » répondit celui-ci.
« Et puis, n'oubliez pas de flatter Monsieur Jujubes, il aime ça. »
« Mais soyez tranquille, je lui ferai la bonne mesure. »«
Ces dames vont venir, » dit le peintre en rentrant. « Elles seront enchantées de vous voir. »«
Croyez, illustre maître, que de mon côté, je serai ravi. »
Puis, bah, Pistache, illustre maître, c'est suffisant. »
Le pharmacien fit un signe approbatif.
« Mais voyez donc mon portrait, » dit-il à Bengali.
« Ah oui, au fait, je suis impatient. »
Jujube retourna son chevalet et regarda son visiteur pour juger de sa première impression.
« C'est stupéfiant !» s'écria celui-ci.
« N'est-ce pas, fit Pistache, ne dirait-on pas qu'il va parler ?»«
On le dirait, oui, mais il vaut mieux qu'il ne parle pas. »
Jujube poussa un éclat de rire. « Comment ?» observa Pistache, vexé.
« Ben, sans doute, répondit Magali, parce qu'alors, ce ne serait plus votre portrait, ce serait vous-même, on dirait. Ah ah, quelle bonne farce ! C'est pas une peinture, c'est une farce, c'est un monsieur qui passe sa tête par un trou.
Oh oui, c'est juste.
Ce qui est absolument extraordinaire, renversant, continua notre blagueur à froid, c'est que, ben vous êtes joli là-dessus.
Comment, vous ne trouvez pas que c'est ressemblant?
Frappant, mais vous êtes joli là-dessus. Du reste, rien à cet égard ne m'étonne de la part d'un maître comme M. Jujubes. Tous les portraits qu'il fait de ma tante sont de plus en plus séduisants. Ainsi, son dernier, à l'âge de 65 ans, rendrait amoureux d'elle.
Et c'est ressemblant, dit Jujube.
Extraordinaire, répondit Bengali. Ah, M. Jujubes! « J'ai vu les portraits de la Joconde, de la Fornarina. »«
Ah !» interrompit joyeusement l'artiste.
« Oui, maître, mais bon, c'est peut-être incompétence de ma part. » Et montrant le portrait du pharmacien. « J'aime mieux ça. »« Pardonnez-moi, maître, je suis un ignorant. »«
Oh, non, du tout, vous avez un goût très remarquable. »« Mais je vous assure que les portraits dont vous me parlez sont estimés des plus grands connaisseurs. » Quoique, personnellement, il ne m'est pas enchanté.
Du reste, ajouta Bengali, le ruban qui brille à votre boutonnière est un peu mon excuse.
Sans doute, murmura Jujube, qui avalait tout cela avec une facilité prodigieuse.
En ce moment, un bruit de voix et un froufrou d'étoffe annoncèrent Madame et Mademoiselle Jujube. Elles entrèrent radieuses.
« Quelle aimable surprise !» s'écria la mère. « Vous ici, cher monsieur, ah, quel plaisir !»
et elle tendit la main à Bengali, qui dut aussi serrer celle que lui tendait Athalie.
C'est moi qui l'ai amené, dit Pistache, à qui on s'était borné à faire un petit signe de tête. Et, ajouta-t-il, il ne voulait pas venir à cause de la farce de l'autre jour. Toute la famille se récria. Jujube répéta ce qu'il avait dit de cette spirituelle plaisanterie, et on surenchérit encore sur son appréciation.
Vous arrivez à propos, dit Madame Jujube. Nous avons, depuis cette soirée, fait une visite à votre chère tante, et nous avons ri comme des folles de votre tour de la surprise.
Sur ce, tout le monde se tord en la rappelant.
Cette excellente tante, ajouta Madame Jujube, nous l'avons invitée à dîner, elle nous a promis de vous amener.
Nous comptons sur vous, dit Jujube.
Oh, positivement, ajoutèrent les deux dames. Oh, il viendra, dit Pistache, dans l'espoir d'être invité.
Mame Jujubesse, dit l'artiste, fais-nous donc servir un petit lunch.
Oh, oui, oui, s'écrièrent les deux femmes, et Madame Jujube sortit vivement.
Je vois le coup, pensa Bengali, on veut que je revienne amuser la société. Et Pistache, qui espérait toujours son invitation, de répéter à Jujube,
« Oh, il viendra, vous verrez, il viendra. »
« Si votre pharmacie vous réclame, répondit celui-ci, ne vous gênez pas pour nous, les malades avant tout. »«
Oh, j'ai le temps, fit piteusement notre amoureux. La séance n'a pas été longue. »
Bengali, désireux d'éviter le lunch, tenta des excuses, mais le peintre insista.
Ben, « Vous prendrez ce que vous voudrez, ne fût-ce qu'un biscuit trempé dans un verre de champagne. »
« Pour trinquer avec moi, » dit Athalie.
« Du champagne, comme vous n'en trouverez dans aucun restaurant, » ajouta Jujube, « un cadeau des héritiers de la veuve Cliquot. » Madame Jujube rentra et offrit son bras à Bengali, qui dut céder. Pistache présenta le sien à Athalie, qui prit celui de son père, et on passa au salon où le lunch avait été dressé sur un guéridon.
« Et les sandwiches ?» demanda Jujube. « Je ne les vois pas. »«
La bonne est allée les chercher, mon ami. Je ne sais pas ce qu'elle fait. »«
Tu lui as dit que c'était très pressé ?»«
Mais oui. »«
Il y a des personnes qui sont comme les foules, » observa Magali. « Plus elles sont pressées, et moins elles vont vite. »
Oh, « oh, charmant !» fit l'artiste.
Et tout le monde répétait « Oh, 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 charmant !» Quant à Pistache, c'était un rire épileptique, et sa bouche démesurément fendue et entr'ouverte donnait l'idée d'un sac de conducteur d'omnibus.
« Goûtez-moi ce champagne, monsieur Bengali, » dit l'artiste en lui présentant un verre.
« Je vais le boire au grand art dont vous êtes un des plus illustres représentants, maître. »«
Ah, à propos, mesdames, dit Pistache, mon ami trouve mon portrait admirable. »«
C'est-à-dire, fit Bengali, qu'il n'y a qu'à se prosterner et adorer, où l'on est classé pour le restant de ses jours parmi les madres et porcs. »
Jujube s'inclina modestement, mais sans protester.
Vous devriez faire votre portrait à monsieur Jujubes, ajouta Pistache.
Mon portrait, oh, je l'ai.
Par qui? Demanda Jujube.
Oh, vous ne connaissez pas l'artiste, c'est un jeune homme qui commence, mais qui ira loin.
Et votre portrait est-il ressemblant? Demanda Pistache.
Quand il fait beau, oui, très, très, très ressemblant.
Une question se dessina sur tous les visages ébahis, et Pistache la posa.
Comment, quand il fait beau ? Je ne saisis pas bien, ajouta Jujube.
Je vais vous expliquer cela, répondit Bengali. Mon jeune artiste, qui était dans la panne au point de ne pas pouvoir acheter une toile, avait une vieille peau de grosse caisse. Il m'a peint dessus de sorte que quand il pleut, la peau se retire et le portrait fait des grimaces épouvantables comme ça, tenez. Et Bengali se contorsionna affreusement le visage au rire de la société. Ce qui fait, ajouta-t-il, que pendant la mauvaise saison, je ne ressemble pas du tout. La famille Jujube se tordait et les verres de champagne présenté par Athalie et secoué par son rire, débordait sur le parquet.
« C'est vous qui m'avez touché le bras, » dit Athalie à Pistache avec humeur.
Et le pauvre garçon, tout piteux, d'affirmer qu'Athalie se trompait, qu'il ne l'avait pas touché. Alors Bengali saisit l'occasion de parler en sa faveur, comme il le lui avait promis. « Eh bien, cher ami, lui dit-il, vous voilà sombre comme un dénouement de crébillon pour une simple observation de mademoiselle. »«
Bon, s'il faut être bien maladroit, répondit Athalie.
« Vous êtes bien susceptible, ajouta la mère. Vous avez grand tort de faire cette mine-là, continua Bengali. « Je ne connais rien d'affligeant comme la vue d'un pharmacien qui boude. »«
Je ne boude pas, » balbutia Pistache.
« Mesdames, » continua Bengali, « ce garçon est très sensible. C'est son seul défaut. Et pour la femme qu'il épousera, ce sera une qualité ajoutée à toutes les autres. Ah, heureuse la femme qui le possédera. » Il ne vagabonde pas comme moi dans les bocages de la fantaisie. Il va droit à son but, qui est la pharmacie.
De première classe, interrompit Pistache.
De première classe, je ne lui fais pas dire. Le soir, il étudie l'art de composer les sirops et les juleps, au lieu d'aller dans les brasseries de femmes, ces écoles préparatoires des candidats pour Charenton. C'est un bon jeune homme, sans passion, vivant comme une huître. » Ici, Pistache quitta son sourire de béatitude. « Comme une huître, » fit-il d'un ton froissé. « Eh bien quoi, cher ami, l'huître est un mollusque délicieux que toutes les jolies femmes gobent avec plaisir. Voici, mademoiselle, qui est une jolie femme. Ne seriez-vous pas heureux qu'elle vous gobât avec plaisir ?»
Oh, certainement, fit notre amoureux en regardant Athalie avec émotion.
Le mauvais plaisant continua. Oh, comme caractère, il possède au plus haut point la vertu de Cadet Roussel, qui pourtant a laissé une réputation de bon enfant. Il est doux, facile à vivre, il mange de tout. Un éclat de rire de la famille Jujube coupa l'éloge du pauvre Pistache.
Je ne lui connais qu'un défaut, dit en terminant Bengali. Le dimanche, il pêche à la ligne.
Mais l'Écriture l'a dit, Dieu ne veut pas la mort du pêcheur.
Ce dernier mot n'était pas fait pour amener au sérieux la famille Jujube mise en gaieté.
Ah, du pêcheur, très joli le mot, dit Pistache, saisissant l'occasion de se rallier à la gaieté dont Bengali avait fait les frais sur son dos.
« Monsieur Bengali, un baba en attendant le sandwich ?» dit Madame Jujube. « J'accepte, madame. Vous permettrez que ce soir, en les attendant pas, je suis obligé de vous quitter. Tout le monde se riera. Oh, nous quitter si tôt ?»
La bonne entra.
« Tenez, voilà les sandwiches !» s'écria Athalie.
Bengali dut céder aux instances de la famille Jujube, et après avoir absorbé quelques sandwiches,
il prit congé d'elle, suivi de Pistache, qu'on n'avait pas cherché à retenir.